Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes là en ce vendredi de Pentecôte, hein, voilà, alors que beaucoup de gens ont déjà pris la voiture. D'ailleurs, on vous salue si vous êtes en voiture, voilà, sur le trajet pour un week-end prolongé. Nous sommes ensemble en direct pendant 3 heures avec Charles Magnin. Bonjour Charles.
Et nous serons là lundi.
Oui.
J'en profite pour l'annoncer tout de suite.
On ne fait pas le pont.
Mais non.
Nous travaillons.
Contrairement au pont précédent du mois de mai. Bon, c'est un autre sujet. Bonjour Estelle et bonjour à
oui,
tous.
Oui, bonjour Charles. Nous sommes également avec le journaliste et écrivain Fred Hermel. Bonjour Fred.
Salut Estelle, salut tout le monde.
Ah, c'est grosse soirée là, Fred.
Ah ouais, ouais là, j'écoute les cours en boucle depuis ce matin.
Enfin, ah oui.
Mais vraiment.
C'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin bon, mais.
Non, oui, mais c'est, Fred, nous, c'est chez nous.
Voilà. Oui, non, mais bien et sûr. Ben voilà. Bah, tout à fait. Nous sommes également avec Élise Goldfarb, entrepreneuse et influenceuse. Bonjour Élise.
Salut.
Et puis, la légende de la télévision est avec nous, comme chaque vendredi. Jacques Legros, bonjour Jacques.
Un sang et or aussi, hein.
Bah bien sûr.
Un ch'ti, oui.
Ah oui, ah, mais bien sûr.
Ah bah tiens.
Ah mais oui. Encore plus que moi, parce que lui, il vient du bassin minier en plus.
Oui.
Moi, je suis de la zone rurale, mais il vient encore plus près de Lens.
Mais vous savez,
un vrai boyau
oui.
rouge.
Enfin, vous êtes quand même très Côte d'Azur aussi, Jacques.
Oh, je vous en prie. Bon.
Le dilemme va être compliqué ce soir. Dans un instant, nous parlerons de Marine Le Pen, qui réclame la retraite à 62 ans. D'accord, pas d'accord avec la chef de file du RN. Vous nous dites tout au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi 0612 424 424. On parlera foot à midi et demi, mais pas de la finale de la Coupe de France, non, de la Coupe du Monde qui démarre dans 19 jours avec des fan zones sans alcool. Est-ce pour vous ridicule ou absolument génial? Ça, ce sera à midi et demi. Et puis à 13h30, vous le savez, si vous êtes sorti dehors, il va faire chaud tout le week-end jusqu'à 36 degrés ce week-end, justement du côté du sud-ouest. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous réjouit? Eh bien, écoutez, dites-nous un petit peu quel temps il fait autour de vous et si vous êtes inquiet de ce réchauffement.
RMC Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec le souhait du jour et c'est celui de Marine Le Pen qui réclame le retour de la retraite à 62 ans. La présidente du groupe RN à l'Assemblée l'a confirmé ce matin, mais plutôt mollement, vous allez l'entendre, au micro d'Apolline de Malherbe.
Aujourd'hui, c'est bien gentil de vouloir faire travailler les gens 64, 65, voire 67 ans, comme Monsieur Édouard Philippe le souhaite. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les entreprises les virent à 55. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on règle le problème de la retraite sur les fondamentaux qui sont ceux de notre système de répartition, c'est-à-dire comment on agit sur la productivité, comment on agit sur le taux d'activité en France qui est beaucoup trop bas et comment on agit sur la création de richesses. Voilà. Et tout ça, c'est un ensemble.
Dans cet ensemble, Marine Le Pen, vous maintenez un départ à la retraite à 62 ans.
Oui.
c'est un petit oui. C'est pas un oui, on est sûr, quoi. C'est un oui, peut-être d'un oui.
C'est un oui.
Et pourquoi c'est un petit oui, Charles? Bah, tout simplement parce qu'il existe des divergences sur l'âge de départ.
C'est Jordan Bardella.
Et voilà, avec Jordan Bardella.
Jordan Bardella qui a semé le trouble il y a quelques jours dans la presse allemande. Quand on l'interroge sur la possibilité d'aller au-delà de 62 ans, il répond qu'en fait, il est en train, je cite, d'examiner la question. Depuis, Marine Le Pen, on l'a entendu, mais aussi tous les cadres du RN, tentent de rectifier le tir en expliquant qu'il n'est pas question de toucher à cette promesse des 62 ans, mais que le RN doit encore travailler sur la manière de financer cette réforme, car rappelons où nous en sommes aujourd'hui. Hein. La réforme Borne a été adoptée en 2023 dans la douleur. Elle devait porter l'âge légal de 62 à 64 ans. Elle a été suspendue il y a quelques mois et depuis, actuellement, l'âge de départ est gelé à 62 ans et 9 mois et ce jusqu'en 2028 en théorie. Mais la question sera au cœur de la campagne présidentielle. Les candidats ne semblent pas pressés de dire exactement ce qu'ils comptent faire. Édouard Philippe répète qu'il faudra travailler plus longtemps sans préciser jusqu'à quel âge. Est-ce que ce sera 65, 66, 67 ans ? Gabriel Attal lui a proposé de supprimer la notion d'âge légal pour ne prendre en compte que les trimestres cotisés. Quant à Jean-Luc Mélenchon, sa dernière position publique sur le sujet remonte à novembre dernier sur BFM TV. Je mettrai la retraite à 60 ans avec 40 annuités, disait-il.
Alors, la retraite à 62 ans, pour ou contre? Je commence avec vous, Jacques Legros.
Bah tiens.
Non mais vous, il n'y a plus d'enjeu. Je veux dire, voilà. Vous êtes
Non, il n'y en a plus.
Oui.
Non, c'est clair, j'ai fait un peu de rab, comme on dit. Non, mais il y a des évidences. Moi, je sais que les partis, notamment le RN, je l'ai pas en tête, hein, mais proposent des solutions pour financer cette retraite par répartition, notamment une part de capitalisation. De toute façon, on n'y coupera pas. Enfin, vous n'y couperez pas. Et par ailleurs, il y a des évidences démographiques. Il y a moins de naissances, il y a plus de personnes âgées. Il y a des évidences de santé. On vit plus tard et plus vieux et plus en forme. Enfin, et puis il y a des évidences budgétaires, c'est on fait comment ? Qui paye comment ? Et comment on fait ?
Et on n'a pas trop parlé de ça.
Bah non, forcément, parce qu'on ne le sait pas. Donc à part augmenter l'âge de départ à la retraite, on n'a pas d'autre solution. Mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Hein. C'est simplement un constat que je fais en me disant, mais comment on pourrait faire autrement ? Bah, j'ai pas trouvé.
Et le FMI nous a mis la pression hier en disant qu'il allait quand même falloir qu'on réduise les dépenses. Et on sait que le plus gros poste de dépenses en France, c'est la retraite. Élise Goldfarb, vous qui êtes la plus jeune sur ce plateau, est-ce que vous dites, bah ouais, pourquoi est-ce qu'on travaillerait plus tard que 62 ans ? Nos parents, nos grands-parents ont travaillé jusqu'à 60, donc on va pas travailler jusqu'à 67.
Moi, personnellement, je suis plutôt alignée sur Édouard Philippe au sujet de la retraite. Mais pour moi, c'est même pas tant ça qui est...
Édouard Philippe, on sait pas très bien. Hein. Il avait dit 67 ans il y a quelques années. Mais et puis maintenant, on n'arrive plus à lui faire sortir un chiffre.
Si vous voulez, pour moi, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle est la stratégie du RN actuellement. Et c'est ce que Caroline Fourest appelle la stratégie de la cravate. C'est-à-dire que à l'approche des élections, ils mettent une belle cravate et ils essayent de rassurer les gens sur d'autres sujets que leurs sujets de base qui sont l'immigration et le racisme. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, là... Non, mais c'est criant pour moi de vérité. C'était quoi la promesse de campagne de Marine Le Pen en 2017 ? 60 ans pour tous, pour la retraite. Oui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, elle a changé d'avis. Heureusement qu'elle n'a pas été élue. La meuf, on voit qu'elle n'est pas claire.
En même temps, c'est pas pour la défense, c'était il y a 10 ans et ils ont tous changé d'avis. Oui. C'était pas la même situation.
En 2022 aussi, elle y était.
Il n'y avait pas eu le Covid, il n'y avait pas eu la guerre
elle
en
était
Ukraine.
Aussi sur... Oui, mais voilà. Elle y était aussi en 2022. Et en fait, le fait que Jordan Bardella ne soit pas vraiment d'accord avec elle et que lui puisse aller même sur 66 ans. Il a dit, dans certains cas, ça peut être 66 ans. Ça montre qu'en fait, cette stratégie de la cravate, de dire, bah, vous allez voir, on est clean et en fait, on sait parler d'autres choses. Elle ne l'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils sont en train de se rendre compte.
Parce qu'il est en train de draguer les chefs d'entreprise, en fait.
Exactement. Mais c'est ça le problème. C'est ça la stratégie de la cravate. C'est qu'on essaie d'aller draguer les économistes et on essaie d'aller draguer les chefs d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on observe quand on voit une interview de Marine Le Pen? Ils ne sont pas au point, en fait. Ils ne sont pas au point sur l'économie. Là où un Édouard Philippe, même si ça peut bouger, il est assez clair depuis le début.
Fred Hermel, alors bah, vous approchez de l'âge de la retraite, on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Mais
8 ans.
Vous êtes à 8 ans de 64 ans, mais donc à 6 ans de 62 ans. Donc est-ce que vous vous dites, bah, ça, c'est effet d'aubaine quand même, là, ce serait quand même pas mal.
Oui, sauf que l'âge de la retraite est un leurre. Ah. Parce que ce qui compte, c'est le nombre de trimestres cotisés.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que oui, je pourrais partir à 62 ans, mais je n'aurais pas mon taux plein. Il faut que je parte à 34 ans et 6 mois. J'ai 34 ans. En 2034 et 6 mois, il faut que je parte à l'automne 2034 pour avoir le taux plein, si on calcule aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment casse-gueule de parler aujourd'hui d'âge de la retraite parce qu'il y a quelque chose de symbolique.
D'ailleurs, ils veulent pas en parler. Hein. C'est pour ça qu'on a eu un petit oui.
En fait, c'est pour ça. Faut pas parler de l'âge, en fait.
On finira par en sortir.
Il faut dire, écoutez, c'est très simple. Pour être bassement politique, hein. Tu dis, ok, on ne touche pas à l'âge de départ de la retraite, simplement, on augmente le nombre de trimestres. Donc, voilà. En disant, vous voulez partir à 65 ou vous partez, mais il y aura une décote.
Donc, t'es ataliste. Oui, mais
non, mais en fait, ça, c'est simplement des calculs. C'est simplement.
Le problème, c'est pour ceux qui font des longues études et on sait que les Français font de plus en plus d'études.
Oui, mais oui, mais ça sera un nombre de trimestres, ça sera pas l'âge de la retraite.
Mais par exemple, si tu fais médecine et que tu arrives sur le marché du travail à 30 ans, si tu dois travailler 50 annuités, ça va te faire bizarre quand tu auras 80 ans et que tu seras en cabinet.
Non, mais le nombre d'annuités, c'est évident que ça va augmenter. Oui. C'est sûr. C'est sûr, parce que si on ne pourra pas financer.
Mais tu peux pas le faire. Oui, mais tu peux pas demander à des gens qui ont fait des études de travailler jusqu'à 80 ans.
Mais là, actuellement, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon promettent que ça va baisser.
Exactement.
Aujourd'hui, c'est 62 ans et 9 mois. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon disent ça va baisser.
C'est normal qu'ils promettent ça. Ils sont
62 ans et 9 mois, l'âge de départ à la retraite. Et non pas le nombre de trimestres.
Exactement.
Parce que c'est ça. La question, il faut.
Il faut les deux.
Il faut parler tout le temps du taux plein. Parce que les gens. ne se projettent pas avec une décote énorme. Les gens se présentent, bon, je vais toucher ça, ma retraite, à partir de quel moment je peux avoir mon taux plein? C'est là-dessus le nerf de la guerre.
L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel on peut demander, déclencher le droit à la retraite, mais ça ne veut pas dire que tu auras le taux plein.
Mais t'as pas tout
ça. Mais on peut aussi tenir compte de la pénibilité, hein.
Ah ben ça, c'est évident.
Oui, et l'espérance de vie, comme c'est le cas dans des pays nordiques.
Tout le monde a prévu d'en tenir compte de la pénibilité.
J'espère.
Exactement. Justement, on parlait des pays nordiques. Ça donne quoi chez nos voisins, Charles?
Oui, rappelons qu'on est donc aujourd'hui à 62 ans et 9 mois. Voilà sur quel âge on est gelé actuellement en France en attendant la prochaine présidentielle. Chez nos voisins, la majorité des États de l'Union européenne ont un âge légal de départ aux alentours de 65 ans, par exemple en Espagne, mais certains vont plus loin. C'est 66 ans en moyenne en Allemagne, 67 ans en Italie ou encore aux Pays-Bas.
Et l'Espagne qui envisage de passer à 67 ans.
Oui,
justement, très,
avec
très
un
bientôt.
Gouvernement très à gauche. Hein.
Exactement, exactement. Nous sommes avec Valérie, elle nous appelle de Grenoble. Et Valérie, elle a 61 ans, donc évidemment, elle doit se poser un peu de questions. Bonjour Valérie.
Bonjour
Valérie.
Valérie, égoïstement, bon, retraite à 62 ans, ça doit vous aller.
Je ne vais pas dire le sens contraire. Je ne vais pas dire le sens contraire. Sauf que, je dirais que oui, 62 ans, pour mon cas particulier, parce que je suis en carrière longue. J'ai commencé à travailler à 16 ans.
Okay.
Après, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit avant. Ce n'est pas l'âge de départ qui compte, c'est le nombre de trimestres. Mmh. Moi, mes trimestres, je les ai depuis déjà 2 ans et demi, pratiquement 3 ans.
Mmh.
Mais à un moment donné, à cet âge-là, où j'avais tous mes trimestres déjà, 3 ans pratiquement en arrière, eh ben non, je ne peux pas prendre ma retraite.
Mais ça, ce n'est pas normal.
Non.
À partir du moment où Valérie, vous avez le nombre de trimestres, vous devriez pouvoir partir.
Oui, mais c'est comme ça.
Normalement, c'est ce qui devrait être dans la logique absolue.
C'est ça.
Ce n'est pas le cas. Vous avez le nombre de trimestres, vous allez continuer à cotiser des trimestres et vous ne pourrez partir qu'à un moment donné, à un âge qui est décidé. C'est ça et c'est pas avant. Voilà.
Mais peut-être que la solution, d'ailleurs, ce serait de dire 65 ans ou 45 annuités, par exemple. Et en fait, tu choisis. Oui. Ça permet à ceux qui ont fait des études de partir, mettons, à 65, et ceux qui ont fait des carrières ou qui ont commencé tôt, comme Valérie, de partir plutôt, mais avec leurs 45 annuités.
Mais en théorie, Valérie, ça existe déjà, les dispositifs de carrière longue, de retraite anticipée. Ça veut dire que vous avez commencé très jeune et vous n'y avez pas le droit?
Ah si, si, c'est ce que je dis. Moi, je peux partir. Parce que à 62 ans, je rentre dans le contexte d'une carrière longue. Mmh. Mais si vous ne rentrez pas, moi j'ai des amis de la famille qui ont mon âge. Eux, ils ont commencé à travailler après par rapport à leur âge de naissance et par rapport aux décotes, aux trimestres qui peuvent être enregistrés pour une carrière longue. Ils ont le même âge que moi. Ils n'ont pas fait de carrière longue. Ils ne partiront. Qu'à partir une date, même si entre guillemets, ils se disent mais moi j'ai envie de partir. Alors je vais vous donner un exemple simple. C'est brut de décoffrage. C'est, je dirais qu'à la limite c'est comment dire, c'est un petit peu de sarcastique et tout. J'ai une amie, malheureusement son mari est décédé.
Ouais.
Elle touche sa pension de réversion. Elle a actuellement une maladie qui est compliquée à gérer. C'est pas grand chose, c'est une thyroïde. Elle continue à travailler.
C'est handicapant.
Elle a téléphoné à la CARSAT, elle a eu un rendez-vous quand même avec une personne de la CARSAT.
Caisse de retraite, ouais.
Et elle lui a dit, moi je touche une pension de réversion qui est relativement correcte. Moi, j'ai fait mon calcul, même si je pars avec une décote aujourd'hui, je vis. Ouais. Et ben on lui a dit non.
Bah bien sûr. Bah non, mais attendez. Après Valérie, c'est la loi. Moi je le dis souvent ici, mais après on peut pas faire des lois. En fait, vous voyez, moi Valérie, à 61 ans j'aurai tous mes trimestres. Et ben je vais continuer à travailler jusqu'à 64 ans parce que c'est comme ça. C'est la loi. C'est pour ça que peut-être une retraite où on pourrait choisir. Mais dans ces cas-là, évidemment qu'il faut avancer les âges parce que. Mais ce serait peut-être plus simple pour tout le monde. Merci Valérie en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà Valérie, proche de la retraite si les 62 ans sont adoptés. Et puis sinon, bah, faudra faire 2 ans supplémentaires pour aller jusqu'à 64. Merci beaucoup. Valérie, ça divise sur le WhatsApp, Charles.
Oui, Johan qui nous dit, mais Marine Le Pen nous a toujours pas expliqué de manière viable et sereine comment on passe à la retraite à 62 ans. Même avec les simulations à 64 ans, le système ne sera pas à l'équilibre. J'ai bien peur que quand on rentrera dans le dur des sujets économiques pendant la campagne, oui, le RN se ridiculise. Voilà ce que nous dit Johan. Évidemment. Kevin nous dit, moi je suis électeur du RN, mais par contre, sur cette proposition, je ne suis pas d'accord. Ça semble évident qu'il faut qu'en France, on soit plus nombreux à travailler et surtout à travailler plus longtemps. C'est des mathématiques. Je trouve ça un peu démagogique de continuer à promettre de raser gratis.
Après, on peut comprendre que quelqu'un qui a 61 ans et demi, il puisse être un peu excité égoïstement par cette proposition. On est avec Patrick, 63 ans, tiens, Patrick, de Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le Vaucluse. Bonjour Patrick.
Bonjour Estelle, bonjour à votre équipe.
Alors Patrick, 63 ans, vous êtes à la retraite ?
Non, je suis carrière longue, un peu comme la dame d'avant.
D'accord.
J'ai commencé à 17 ans, 100 jours de chômage, quoi. J'ai fait toute ma carrière.
Okay.
Je pouvais partir à 60 ans en carrière longue, mais de ma volonté, j'ai voulu continuer, je ne me sentais pas prêt, je me sentais en forme pour continuer.
Bah super.
63 ans aujourd'hui, j'ai mon patron qui me demande encore de continuer avec eux parce qu'ils ont besoin de notre expérience, ce que j'ai écouté l'autre jour votre émission qui avait des problèmes justement ces gens de mon âge. Et
oui, sur les seniors, sur le coup de gueule d'un senior qui disait je suis vieux et je vous emmerde.
Excusez-moi.
Ça me plaît.
C'était sur le coup de gueule d'un senior qui disait je suis vieux et je vous emmerde. Exactement.
Exactement. Mais moi, vous savez, c'est le nouveau patron que j'ai depuis 3 ans, c'est lui qui est venu me chercher justement pour mon expérience, mon savoir-faire, qu'il avait besoin pour les aider. Et puis ça fait 3 ans, et puis encore, on me demande encore de continuer parce qu'ils ont toujours besoin de moi. Et puis au fin de compte, c'est la relève aussi qui est difficile. On a difficulté pour pouvoir. On m'a demandé de former quelqu'un pour pouvoir me remplacer, et puis on ne trouve personne. Donc,
Mais Patrick, vous, là, vous avez 63 ans, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque année qui passe, vous gagnerez plus pour votre retraite. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez toucher plus.
Oui, bien sûr, sûrement, mais bon, c'est une volonté de ma part, puis je me sens pleinement. D'accord. Et puis, moi, je suis d'origine du Québec, et chez moi, la retraite est à 67 ans depuis longtemps.
Ah ouais, d'accord.
Personne n'y voit une complication à ça, ça fait normal.
Donc, il faut travailler plus, en fait.
Ben, pour moi, personnellement, oui, je trouve que 60 ans, c'est pas un âge pour partir en retraite, on a encore. Après, il y a des métiers très compliqués, très durs.
Bien sûr. Mais c'est compliqué d'être maçon à 70 ans, c'est sûr.
Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à apprenti, j'étais peintre dans le bâtiment, aujourd'hui, je suis chargé d'affaires. Mon métier est moins compliqué, mais il y a des métiers très durs, compliqués. Ça fait peut-être qu'il faudrait voir des cas particuliers pour ces gens-là.
C'est ça, mais heureusement, les critères de pénibilité sont pris en compte.
Estelle, monsieur soulève un sujet en marge de l'âge de la retraite, c'est qu'on se prive, si on part trop tôt à la retraite, de compétences.
Exactement.
On se prive de transmission à des jeunes, et ça, c'est du gâchis.
Et puis il y a des seniors qui ont pas envie de partir.
Hein. Ben exactement. J'en connais un, moi.
Oui, mais vous êtes déjà à la retraite, Jacques. C'est-à-dire que vous faites les deux.
Oui. Mais
c'est une retraite active, on va dire. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est intéressant.
Voilà, retraite heureuse. On cotise pour vous, Jacques, si je puis me permettre.
Oui, mais il cotise aussi.
Il cotise aussi. Et pas pour lui.
Donc pour rien.
Exactement. Enfin, pour les autres, Jacques, c'est pas pour rien.
Pour vous, ça me fait plaisir.
Vous cotisez pour nous.
Mais c'est un ch'ti, c'est la main sur le cœur. Ouais, c'est comme ça, Jacques.
Ben oui, bien sûr.
C'est le cœur sur la main plutôt.
Oui, merci beaucoup, en tout cas, Patrick, d'avoir été avec nous. Et puis bonne continuation, peut-être jusqu'à 70, 80 ans. Patrick, qui sait. On a Élise, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, moi ce que je trouve fou là depuis qu'on reçoit des appels, c'est le changement d'opinion des gens. Vous trouvez pas? Il y a 2 ans, quand on avait ce débat, personne n'était pour travailler plus longtemps.
C'est vrai.
Et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une réflexion collective et que les gens se disent, évidemment qu'il y a toujours des gens qui sont contre évidemment la retraite plus tard, mais là, on n'a jamais eu autant d'appels. Enfin, c'est édifiant.
Au départ, c'était 93% des gens qui étaient défavorables à la retraite à 64 ans et qui voulaient rester aux 62 ans.
J'ai l'impression
là, fait un sondage dans la rue, ce serait pas ça.
J'ai l'impression que là, les gens se réveillent quand même. Ils voient l'état de la France, ils voient l'état de notre économie, ils voient qu'en fait, si on garde la retraite comme ça va baisser les pensions de toute façon. Donc, je vois qu'il y a un réveil et ça me fait réfléchir.
On a aussi des gens qui sont autour de 60 ans, mais qui se sentent bien physiquement.
Bien sûr.
Donc, ils se disent, je peux continuer. Parfois, t'as 45 ans, tu te dis, j'ai encore tant d'années à bosser. Tu sais, je pense que c'est là aussi, c'est un peu déformant parce qu'on a la chance d'avoir des auditeurs qui sont en forme et
qui aiment leur travail.
Et qui aiment leur travail, voilà. Mais pour d'autres, c'est pas forcément.
Tout le monde veut prendre en compte la pénibilité.
Mais elle est prise en compte, en fait, aujourd'hui. François nous appelle de Marseille, il est créateur graphique. Bonjour François.
Bonjour Estelle, bonjour à toute la tablée.
C'est une voix jeune ça, François. Vous avez quel âge?
50.
Ah oui, bah c'est le bel âge.
Un gamin.
C'est oui, le bel âge. Bon, comme j'en ai 49, ça m'arrange de dire ça, évidemment. François, pour ou contre l'âge de la retraite à 62 ans?
Alors pour moi, c'est pas le sujet.
Ah d'accord.
Parce qu'en fait, moi, je vais vous dire clairement, nos politiques, peu importe le bord, on est toujours dirigés par des idiots et des incompétents, incapables d'anticiper quoi que ce soit.
C'est vrai.
Pourquoi l'âge de départ à la retraite, c'est une idiotie? Simplement parce que l'évolution technologique qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle avec les IA et surtout la robotique couplée à l'IA fera que vous serez dans l'impossibilité de travailler jusqu'à 64 ans ou 62 ans ou 60 ans. Parce que dans tout un tas de métiers, la machine va remplacer énormément de postes.
Ah oui, c'est vrai que vous êtes créateur graphique, donc pour le coup, vous êtes en plein dedans.
Comment vous allez faire pour trouver du boulot et pour pouvoir compléter votre retraite? Ce serait impossible.
Ouais, c'est pas faux.
Ce sera impossible. La seule solution actuelle viable, c'est de taxer le travail non humain.
C'est-à-dire?
Tout ce qui utilise des intelligences artificielles, des algorithmes génératifs et des outils robotisés doivent être taxés. Pour compenser les pertes financières qui ne sont pas assurées par le travail humain.
Mais dites ça à Mistral, par exemple, qui est la plus grosse intelligence artificielle française, et c'est un fleuron aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que Mistral. Il faut taxer absolument tout le monde. Meta, Facebook, il faut les taxer. Oui. Google, Alphabet, il faut les taxer.
Il y a l'impôt de production.
Ils génèrent des revenus sur du travail non humain.
Ouais, alors ça c'est encore une idée, mais c'est vrai qu'elle n'a pas été évoquée, mais c'est peut-être une bonne idée. Merci François en tout cas d'avoir été avec nous, et c'est vrai qu'on peut se dire que peut-être que dans 20 ans l'âge de départ à la retraite sera totalement obsolète et qu'on aura d'autres solutions. Le WhatsApp, Charles.
Avec Baptiste qui nous dit mais Marine Le Pen a raison, et puis surtout elle soulève un point important, c'est qu'aujourd'hui si on écoute Édouard Philippe ou d'autres candidats qui veulent reporter l'âge de la retraite à 67 ans, quand on voit le faible taux d'emploi des seniors aujourd'hui passé 55 ans, ça on progresse. Va juste créer de nouvelles cohortes de chômeurs. C'est le risque si on ne fait que repousser comme ça l'âge légal sans mettre en place des dispositifs d'embauche des seniors. C'est ce que craint Baptiste. J'ai aussi Alain qui nous dit « Moi, j'ai 68 ans, j'ai commencé à 19 ans, j'ai plus de 200 trimestres cotisés, mais comme j'adore mon job, je n'ai pas envie de partir. » En fait, il faudrait surtout calculer la retraite sur le nombre de trimestres et arrêter avec ces bornes d'âge légal qui sclérosent le débat, estime Alain. Et puis, j'ai Boubou, je pense que c'est un pseudo, qui nous dit « Commençons déjà par aligner complètement les règles entre le privé et le public, ça permettrait aussi sûrement de faire quelques économies. »
Ah bah oui, ça c'est sûr, mais là, à mon avis, il y aurait quelques petites manifs dans la rue. Enfin, je dis
et
ça,
les régimes spéciaux, hein.
Oui, exactement. Oui. Il y aurait un peu de manif, mais en tout cas le taux d'emploi des seniors progresse en France, et en fait à chaque fois qu'on recule l'âge de départ à la retraite, il progresse parce que les entreprises évitent de virer quelqu'un qui est à 8 ans de la retraite, donc du coup ça fait progresser le taux d'emploi des seniors. Alors on vous a poser la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Ça n'a cessé de bouger durant le débat, Charles. Ça avait commencé à 50-50.
Eh ben, c'est très serré jusqu'au bout. Marine Le Pen qui promet la retraite à 62 ans, d'accord ou pas? Vous avez répondu d'accord à 56%.
Voilà, mais donc on est loin des 93% au départ de la réforme d'Elisabeth Borne. Dans un instant, on change totalement de sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans 19 jours, c'est le début de la Coupe du Monde de football. Il va y avoir des fan zones, notamment à Paris. Et il y a une fan zone qui a décidé d'interdire l'alcool. Est-ce que vous trouvez ça ridicule ou au contraire absolument génial? Eh bien écoutez, on en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi et demi, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi avec Charles Magnin, Fred Hermel, Élise Goldfarb et Jacques Legros. Et tout de suite, on s'intéresse à l'interdiction du jour. C'est ce que c'est ça? J'avais pas encore entendu.
C'est Shakira, c'est l'hymne mondial.
C'est l'hymne de la Coupe du Monde. Et oui,
qui dit
Coupe du Monde, le mondial ce sera dans 19 jours, dit fan zone. Et l'interdiction du jour, eh bien, c'est celle de l'alcool dans une fan zone de la Coupe du Monde située à Paris, à la Villette. Les organisateurs ont fait le choix donc d'un espace sobre où la bière ou le rosé seront prohibés. Pourquoi ce choix? Charles, est-ce que sans alcool, la fête est plus folle?
Une décision, en tout cas, assumée par le géant Lego qui organise cette fan zone géante Porte de la Villette à Paris. L'objectif du sans-alcool est de créer, je cite, un environnement convivial, inclusif et adapté aux familles. Autrement dit, rassurer les parents, en faire un espace ludique, des activités, des food trucks. Et même si les matchs seront diffusés jusque tard dans la soirée, voire la nuit, Lego assume sa volonté d'éviter les débordements en garantissant une zone sans alcool. Cette question de l'alcool à l'occasion des grands événements sportifs se pose régulièrement dans les stades. La loi est très claire sur le papier. La consommation d'alcool est interdite dans les stades en France. Mais les clubs, les associations peuvent demander 10 dérogations par an pour vendre de l'alcool, libre ensuite à la préfecture de les autoriser ou non. Par exemple, au Parc des Princes à Paris, l'alcool est prohibé depuis des années. Sauf, me disait Estelle, dans les loges et les espaces VIP des stades. C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des stades de Ligue 1. Pas d'alcool dans les tribunes, sauf dans les loges ou les espaces VIP. Et chaque événement applique ses propres règles. Depuis 2 ans, Roland-Garros interdit l'alcool dans les gradins. Mais là aussi, l'alcool
sauf
est encore...
Sauf en loge.
Voilà, là aussi Estelle me confirmait que c'était encore autorisé en loge. L'alcool qui était aussi banni des enceintes lors des JO. En revanche, la bière a coulé à flot lors de la dernière Coupe du Monde de rugby.
Alors, des fan zones sans alcool, est-ce génial ou ridicule, Élise Goldfarb?
Bon, déjà, moi, je trouve ça génial. Pour Lego, c'est assez logique. C'est quand même une marque de jouets, donc ils n'allaient pas le faire avec alcool. Mais je pense que ça devrait être généralisé à toutes les fan zones, parce que pour moi, c'est un enjeu de santé publique. Il suffit de voir ce qui s'est passé hier soir à Paris avec des hooligans de l'OGC Nice qui sont venus taper.
On ne sait pas s'ils étaient alcoolisés.
En fait, quoi qu'il arrive, tous les chiffres le montrent, quoi qu'il arrive, quand il y a une victoire de match, les violences augmentent, et c'est notamment à cause de l'alcool. Parce que quand t'es bourré et que ton équipe préférée a perdu, t'as envie de taper la gueule de quelqu'un. Ok? Il y a une étude qui est sortie en Angleterre, parce qu'en France, on n'est pas en mesure encore de faire ces études sur les femmes. L'état des femmes, en fait, le soir de match, les soirs de match à cause des hommes bourrés. D'accord? Je vais vous lire les chiffres que j'ai trouvés de l'étude la plus édifiante que j'ai trouvée. En Angleterre, donc je vous le dis une fois de plus parce que la France est en retard sur ce genre de recherche, on n'est pas en mesure de le faire.
C'est pas la même typologie de supporters, mais...
Oui, c'est des hooligans. Bon, ça tombe bien parce que le 30 mai, il y a un match contre Arsenal, donc l'Angleterre.
Oui, mais ce sera à Budapest.
Le jour... Mais oui, on a quand même des fans en France. Donc les jours de match, quand il y a match nul, il y a 26% de violence conjugale en plus. D'accord? Et quand l'Angleterre perd, donc quand ton équipe perd, 40% de plus. Entre hommes, je vous ai même pas parlé des violences entre hommes. C'est 63% de plus de violence de gens qui se battent à cause de l'alcool les soirs de match. Donc en fait, pour les femmes, c'est un enjeu de santé publique. Moi, quand il y a un match de foot, quand le 30 mai, il y aura le match du PSG et d'Arsenal, j'ai peur de ma soirée. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, j'ai pas envie d'être dehors.
Pour te rassurer, c'est à 18h. Ce qui déjà te permet d'avoir une soirée.
Oui, ça m'inquiète d'autant plus que ça va être encore plus long. En fait, si vous voulez, ce bordel. Parce qu'au moins, quand ça finit à 23h, je peux aller me coucher. J'adore regarder les matchs, mais les supporters me gâchent le plaisir.
Mais est-ce que c'est les supporters alcoolisés? En fait, c'est ça le problème.
Mais je ne veux pas mettre tous les supporters dans le même sac. Évidemment, moi, quand j'y vais avec mes copains, on kiffe, c'est trop bien, c'est un moment de concorde nationale. On est tous heureux.
La plupart des supporters, ils sont pas ivres morts.
À la finale de la Coupe du Monde, je suis allée sur les champs. Mais je suis désolée, il y a un moment où t'as toujours les 200, 300 mecs bourrés qui, moi, en tant que femme, bourrés, me mettent en danger. Et ils le sont très souvent. Ils sont très souvent.
Mais les mecs
bourrés.
Violents sont pas forcément ceux qui ont cassé les sculptures de Yann Arthus Bertrand, là.
C'est pas un invariable. C'est la même chose en boîte de nuit. Quand un mec est bourré,
ça va.
Il devient un porc. Voilà, c'est tout. C'est donc, qu'il soit fan de foot ou pas, c'est pas le problème. Il s'avère que les soirs de foot, on boit plus. On tape plus ses femmes. Et donc, les femmes sont en danger. Donc, c'est une mesure de santé publique pour les femmes. Si vous voulez.
Eh ben très bien. Alors en tout cas, voilà, très belle démonstration d'Élise Goldfarb. Ça va être difficile de réagir après ça, Fred.
À vous de jouer, mon Fredo.
Mais en fait, ça veut quand même dire. Moi, le seul truc, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu disais. Moi, le seul truc qui me gêne, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire qu'en fait, en rugby, tu peux boire de l'alcool, il y a aucun problème. Et en foot, on interdit l'alcool aux supporters. Il y a quand même un truc qui pose question, quoi, Fred.
Oui, mais je vais vous surprendre. Moi, je suis favorable à cette mesure.
Oui, mais je comprends.
Pour une raison très simple, c'est que comme ça se joue en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ça va être tard le soir. C'est beaucoup plus difficile de contrôler une foule en pleine nuit. Donc, c'est normal de prendre des mesures.
Oui, mais
des
sauf mesures. Que, excuse-moi, à côté de la Villette, il y a des bars. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont envie d'arriver bourrés, fait, ils vont dîner. Et surtout, comme tu l'as dit, très justement dit, c'est tard le soir.
Oui, ils vont dîner.
Les matchs sont à 23h.
Oui, mais c'est pas pareil.
Tu vas dîner avec alcool et tu vas arriver, tu vas te déjà dîner.
Oui, mais si t'as dîné, t'as bu un petit coup. Après, si tu peux pas boire à l'intérieur, bon, à un moment, pendant le match, ça dure 2 heures, tu dessoules un peu, etc. Donc, moi, je trouve ça triste, mais je vois pas comment on peut aller contre ce genre de mesures, parce que c'est pas fait pour emmerder le monde, c'est parce qu'on a peur des débordements.
Oui, bien sûr.
C'est uniquement pour ça. Et je suis d'accord avec Élise, même si tu l'as un peu précisé, mais les supporters anglais, la bière a beaucoup de bière, c'est ça fait partie du pack en fait.
C'est ça.
En Angleterre, être bourré au stade, c'est vraiment, ou dans les pubs, c'est vraiment le truc. Donc c'est un peu différent en France.
Mais le chiffre, chiffre de 63% sur les violences entre hommes, il vient d'Allemagne. Je te le dis juste.
L'Allemagne donc, aussi.
T'as tous les pays d'Europe.
Oui. En France, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus une goutte d'alcool. Dans les théories, en tout cas, dans les stades.
En France, il y a une femme qui meurt tous les deux jours.
Et en France, il y a moins de violences sur le foot. En France, il y a moins de violences sur l'équipe nationale. Contrairement en Angleterre, par exemple.
Mais les soirs de foot, on boit plus. En fait, c'est
en France, t'as plus de violence sur des équipes, en fait, le Paris Saint-Germain, Nice, hier ou n'importe, que sur l'équipe nationale. L'équipe nationale engendre moins de violence aujourd'hui en France qu'en Angleterre. Par exemple, on se souvient de la Coupe du Monde à Lens, avec
le gendarme Nivelle.
Exactement. Les bagarres entre les Anglais et les Russes, etc. Mais voilà, il y a plus de violence sur les équipes nationales en Angleterre. Mais enfin, ça n'empêche qu'effectivement, il y a des violences au foot liées à l'alcool. Mais pas que. Est-ce que c'est dommage d'en arriver là, Jacques? Ou est-ce qu'il faudrait miser sur la responsabilité individuelle?
Mais
tu
ne peux pas miser sur la responsabilité. L'alcool, c'est comme la vitesse, c'est un facteur aggravant. Mais quand t'es con, t'es con.
Oui, d'accord, mais donc...
Eh ben donc il faut
donc
pas d'alcool.
Donc aller là-bas juste con. Bah, on ferait peut-être mieux de mesurer la connerie dans ces cas-là.
Miser sur la responsabilité, autant croire au Père Noël. Enfin, c'est la responsabilité d'un supporter excité? C'est, elle s'arrête où? Elle commence où, la responsabilité?
On peut être très intelligent, avoir fait HEC et être supporter excité. Hein.
Ça n'a rien à voir. Il y a des gros cons qui ont fait HEC. Mais simplement, quand t'es con, t'es con. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu ogises?
On a suggéré pendant des décennies. Il y a eu des fan zones en France, toutes les Coupes du Monde. Jérélise était sur les champs. Et je pense que t'avais un peu bu le soir où t'es allé faire
moi,
la fête.
Moi, personnellement, je bois pas, mais chou blanc. Allez. À cette époque-là, en tout cas, on était moins au fait des violences conjugales, notamment, des violences sexuelles. Qui étaient des conséquences.
Il y avait eu très peu de violence dans la rue. Alors
moi j'étais
un jour de fête.
J'étais à République le soir de la demi-finale de la France, la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée là. C'était quand 2018. Voilà, j'étais à République en voiture. On m'a cassé les vitres de la voiture.
Oui. Et les mecs étaient vraiment bourrés. T'es sûr de ça?
En fait, tout le monde était en transe. Tu peux pas savoir qui est bourré.
Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil.
Mais ça crée une ambiance, ça crée une atmosphère. Si tu veux, t'as les cheveux qui puent la bière quand tu rentres chez toi. Enfin, excusez-moi. Ouais. Quand tu vas sur les champs, tu rentres chez toi, tu pues la bière alors que tu bois pas de bière.
Bah écoute, je sais pas, on n'a pas la même conception du supporterisme, on va dire. On peut aussi très bien se comporter en étant supporter.
Et on peut très bien se comporter.
On va pas faire l'apologie de l'alcool ici, certainement pas, mais tu peux boire un verre de rosé, regarder un match et parfaitement bien te conduire. Et tu peux ne pas boire du tout, regarder un match et très mal.
Et je félicite.
L'alcool n'est pas toujours le problème.
Je félicite les spectateurs et les fans qui sont responsables et qui arrivent à garder le contrôle et à rester respectueux malgré leur joie.
Comment ça se passe sur le WhatsApp?
D'ailleurs, ils sont nombreux, les supporters, à se défendre, on va le dire comme ça, après la tirade d'Élie. Cédric nous dit, faut pas exagérer, on peut boire des coups entre potes devant un match et ne pas s'énerver ensuite en fonction du résultat. Le PSG a perdu pendant des années et des années, nous dit Cédric, et je ne tapais pas sur ma femme pour autant. Élise exagère, mais pourtant je l'apprécie. Voilà ce que nous dit Cédric, qui est très mesuré,
mais
il ne veut pas qu'on généralise à tous les supporters ou à tous ceux qui ont l'habitude de boire un coup devant un match. À l'inverse, Jean-Luc nous dit, mais je vois pas ce qu'on peut trouver de choquant à l'absence d'alcool dans une fan zone. Ça devrait même être la norme. Oui. Je ne suis pas du tout supporter, je n'ai pas l'habitude de ces endroits, mais je ne comprends pas qu'on ait besoin de boire de l'alcool devant un match de foot ou de rugby.
Oui, alors faisons-le pour tous les sports, en fait. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait.
Et parce qu'il y a moins de monde dans les autres, il y a moins de monde.
Franchement, quand il y avait la Coupe du Monde de rugby, tu avais des fan zones, mais dans ces cas-là, on interdit pas.
Parce que c'est la Coupe du Rugby, en France.
Voilà, et alors, il va y avoir une Coupe du Monde de polo, alors là, pas de problème. Il y aura du
rugby. Rarement des débordements.
Tu supprimes pour tout dans ce cas-là.
Rarement des débordements au polo. Au JT, si tu veux.
Et dans le golf aussi, c'est pareil, il y a peu de.
Eh ben oui, mais si tu supprimes.
Il y a peu de débordements, il y a peu de débordements, même au tennis.
Mais il y a un peu d'alcool quand même.
Dans les loges, peut-être.
Oui, au Country Club, Jacques Legros, bien sûr.
On parle pas des mêmes choses.
Oui, voilà, ça boit pas du Coca-Zéro au déjeuner.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Bah oui, les vitrous, pardon.
Je sais pas, je fais pas de golf.
Oui, bah voilà, mais bon, mais vous pouvez fréquenter les Country sans faire de golf. Jacques Legros, est-ce que pour le coup, ça peut pousser des familles aussi à retourner dans ces espaces qui parfois sont désertés, Fred Hermel?
Eh bien, c'est ça en fait, parce que moi aujourd'hui, j'ai un petit enfant, je vais pas dans une fan zone, quoi. Sincèrement. Oui. Il y a trop de monde. Enfin, dans le foot, aujourd'hui, c'est devenu dangereux, quoi. Sincèrement, enfin, moi-même, hein, pour ma propre sécurité, je vais pas dans une fan zone, quoi. Enfin, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans le foot, quoi. Mais oui, et on voit aujourd'hui, quand il y a beaucoup de monde dans la France d'aujourd'hui, beaucoup de monde ensemble, je vous rappelle qu'on a quand même annulé le concert du Nouvel An à Paris, parce qu'on pouvait pas contrôler.
Enfin, oui, c'est... oui, mais alors dans ces cas-là, on n'a qu'à l'intérieur pour la fête de la musique aussi, parce que, excusez-moi, les débordements lors de la fête de la musique oui, et des gens ivres morts qui vomissent partout, il y en a plein. Mais là, comme par hasard, il n'y a aucun problème et on n'interdit pas l'alcool. Moi, c'est juste la stigmatisation du foot qui me gêne. Oui, voilà, mais vraiment, quoi.
Mais tu sais que je suis amoureux du foot comme toi, donc le problème, c'est que c'est un sport.
Il y a un peu le truc de oh là là, ces beaufs, ils ne savent pas se tenir.
C'est vrai.
Voilà. Et il y a un mépris de classe. Je suis désolée. Ah, la fête de la musique, ça c'est. Mais bien sûr que oui.
Attends,
c'est pour les beaux parisiens. Ils vont aller au Trocadéro, ils auront leur bouteille de champagne, il n'y a pas de problème.
C'est pas faux.
Mais pour nous, les beaufs, qui aimons le foot, alors là, nous, on n'est pas tolérés. Et le foot, c'est aussi les classes populaires, mais bien sûr que oui.
Une place au stade, c'est 1000 balles.
Là, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire les.
Mais oui.
Ça veut dire les classes populaires, elles ne savent pas se tenir. C'est ça que ça veut dire. Et c'est en ça que moi, ça me gêne.
Je me trouve autant en danger avec les classes populaires qu'avec les classes aisées quand quelqu'un est bourré.
Et les classes aisées au stade, en loge, t'as le droit d'avoir ton champagne et t'as le droit de boire trois bouteilles si tu veux. Et donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est les classes.
Faudrait le faire pour tout le monde.
Et ben exactement.
Et Angèle nous dit pas d'alcool dans les fan zones. Pourquoi pas? Mais tous les bars, les pubs qui sont autour, qui vont diffuser le match avec des terrasses géantes et des grands écrans sur leur terrasse. Là, qui va aller contrôler qu'il c'est pas la fête de la beuverie et qui va aller surveiller la sécurité des familles? Donc l'alcool n'est pas que dans les fan zones, nous dit Angèle.
Et on va être en ligne avec Morgane de Poitiers, qui est coach sportif et pompier volontaire. Bonjour Morgane.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour Morgane.
Morgane, est-ce que vous êtes favorable à ces fan zones sans alcool?
Alors, comme j'ai expliqué, je suis pas contre, mais il y a sûrement des alternatives vu que on a et on nous propose dans les centres commerciaux des bières sans alcool ou des vins sans alcool. J'estime qu'on pourrait les avoir dans ces zones-là et laisser la liberté aux personnes qui sont dans les bars s'ils veulent et les bars aussi leur liberté de proposer des boissons avec alcool. Comme ça, tout le monde est content.
Bah, c'est un peu ce qui se fait, hein, quand vous allez au stade aujourd'hui, vous avez le droit de prendre de la bière sans alcool.
Voilà, mais dans le propos de Lego, c'est pas d'alcool du tout. Alors, ils ont pas précisé, je pense, si c'était que des sodas ou des boissons soft ou de la bière ou du rosé sans alcool.
Ah, mais je pense que ça c'est...
La bière sans alcool, il y en a maintenant.
Oui,
partout,
bien sûr, tout à fait. Et c'est rentré dans les mœurs.
Et comme ça, le débat est très bien et on va pas stigmatiser les fouteux. On gère très bien les personnes, comme ça, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de violence ou il n'y aura pas d'excès, ça, je suis d'accord. Mais par contre, à l'extérieur, si on a envie de boire de l'alcool, on va pas s'interdire non plus.
Ah ben non, bien sûr, si vous voulez aller boire un verre au bar d'à côté, ça vous avez le droit. Mais en revanche, quand vous entrerez dans les fan zones, il n'y aura pas d'alcool à l'intérieur. Mais on pourrait aussi imaginer des tests d'alcoolémie aussi à l'entrée de la fan zone, comme ça, pour être sûr que... Non mais si on veut éviter que les gens soient pas ivres, dans ces cas-là, allons jusque-là. En fait, je trouve que c'est pas forcément... Tout n'est pas forcément bien dans cette fan zone sans alcool. Soit ça va pas assez loin, soit il y a quand même une petite discrimination. Merci Morgane en tout cas d'avoir été avec nous. Ça donne quoi sur le WhatsApp, Charles?
Eh ben justement, on voit bien que c'est divisé, cette idée fan zone sans alcool pendant la Coupe du Monde. Génial ou ridicule? On vous a posé la question. Vous trouvez ça génial à 53%. Là, c'est la marge d'erreur.
C'est beau.
Entre génial et ridicule.
Dans un instant, le rendez-vous des notaires. On se demandera si on peut tout simplement donner une maison à un enfant, mais continuer à vivre dedans.
Voilà, c'est un sujet épineux.
Et tant mieux, parce que nous aurons les notaires dans un instant, et puis après, ce sera le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, on est vendredi, et le vendredi, c'est le rendez-vous des notaires.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et aujourd'hui, nous sommes avec maître Anne-Claire Ancelin, notaire à Saint-Dizier. Bonjour maître.
Bonjour Estelle Denis.
Vous allez devoir répondre maître à la question d'Anne. Anne, elle a 67 ans et voici ce qu'elle nous demande. Bonjour, je vis seule dans ma maison dont je suis propriétaire. Puis-je donner cette maison à mon fils unique tout en continuant à vivre dedans? Je pense qu'il y a plein d'auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent et qui sont intéressés par cette question. C'est une question qu'on se pose beaucoup.
C'est effectivement une question fondamentale puisque c'est aussi de la stratégie d'anticipation patrimoniale. Donc la réponse qu'on peut apporter à Anne, c'est bien sûr c'est possible, puisque lorsque je suis propriétaire d'un bien en droit français, la propriété se divise en trois branches, l'usage, la jouissance et le droit de disposer du bien.
D'accord.
Donc l'usage et la jouissance, c'est ce qu'on appelle l'usus et le fructus, l'usufruit. Voilà. Je peux donc donner à mon enfant la nue propriété du bien, tout en conservant ce droit d'usufruit, qui me permettra de rester dans les lieux ma vie durant, et qui me permettra également de pouvoir louer ma maison si je ne peux plus y rester.
Mais alors, quel est l'intérêt, en fait, pour l'enfant?
L'intérêt pour l'enfant, c'est d'abord de recevoir du vivant de la personne, ce qui évite les stress évidemment au moment du deuil. L'autre intérêt, c'est que ça permet de retrancher au moment de la donation, au moment du démembrement de propriété, la valeur de cet usufruit qui est fonction de l'âge auquel je donne. Anne a 67 ans, elle a aujourd'hui un usufruit qui vaut encore 40% selon l'article 669 du Code général des impôts. Et donc à ce titre, ça va lui permettre évidemment de transmettre à moindre frais en optimisation patrimoniale.
Voilà, c'était ça ma question, pour faire simple, en fait, maître, c'est est-ce qu'on va payer moins de droits de succession ? Est-ce qu'on paye moins de droits de succession si on lègue, entre guillemets, sa maison à son enfant ? C'est oui.
Oui, on paye moins de droits, puisque effectivement, on va pouvoir retrancher cette valeur d'usufruit de la transmission.
Je sens qu'elle va aller voir sa mère dès la sortie du...
J'ai envie de la texter, là.
Et votre mère va très bien, en plus, donc voilà.
C'est important aussi d'aller bien, puisque l'article 751 du Code général des impôts nous dit bien que lorsque je donne en usufruit, je n'ai pas le droit de mourir dans un délai de 3 mois.
Enfin, je n'ai pas le droit.
On peut jamais, savoir, mais la présomption de l'article 751 est bien sûr réfragable. On peut apporter la preuve contraire, mais si je sais au moment où je fais ma donation,
dans les 2 mois,
Ça c'est encore autre chose. C'est l'ingratitude, ce qu'on appelle l'ingratitude en droit français. Mais c'est surtout que je ne peux pas donner avec réserve d'usufruit si je sais que je suis condamné. Auquel cas, si je décède dans les 3 mois, l'administration fiscale va pouvoir considérer que la donation n'était pas sincère.
Donc, en fait, pour les parents qui nous écoutent et qui auraient donc des velléités de transmettre à leurs enfants, donc il faut être le mieux, c'est de transmettre en bonne santé.
Exactement.
Tout simplement. Et effectivement, de pas attendre une mauvaise nouvelle.
Ouais.
D'accord. Plusieurs enfants.
Plusieurs nus propriétaires, c'est possible, ce qu'on appelle une donation en indivision. On peut aussi envisager le cadre de la donation partage. Lorsque j'ai plusieurs biens, si possible de même nature, je peux en donner un à mon enfant A et l'autre à mon enfant B.
De même valeur.
Et dans ce cas-là, il faut que ce soit des biens de même nature. Voilà. Il vaut mieux que ce soit des biens de même nature.
Ça se fait à l'initiative de qui ? Est-ce que c'est l'enfant ou le parent qui vient vous voir ? J'imagine que parfois il y a des situations compliquées.
Non, enfin quand même.
C'est souvent à l'initiative des parents, grâce à vos émissions, parce que les gens se renseignent et qu'ils justement ils ont la crainte des droits et d'avoir beaucoup de choses à payer. Ils veulent protéger leurs enfants. Et en ce moment, c'est quand même un sujet majeur.
Ah bah ça c'est sûr. Et maître, dernière question. Si on veut faire ça justement, on va voir son notaire.
On va voir son notaire. Le mieux est de disposer de son titre de propriété et d'une estimation récente du bien qui permettra au notaire de pouvoir faire les calculs tant des frais de l'acte que des éventuels droits de donation qui pourraient être dus si ça excède les 100 000 euros par enfant, puisqu'on a un abattement de 100 000 euros pour pouvoir donner.
Merci beaucoup, maître. En tout cas, c'était très clair. Et je pense que les notaires vont recevoir plein de coups de fil sur ces questions dans les prochains jours. En tout cas, vous avez deux nouveaux clients, là, Jacques Legros et Élise de Farbe, qui se sont montrés très intéressés par cette chronique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Maître, dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera encore, j'ai envie de dire, de l'affaire Patrick Bruel. Il y a pas mal de chanteuses aujourd'hui qui disent qu'elles savaient, qu'elles avaient vu des comportements gênant. Est-ce qu'en fait ces artistes auraient dû parler avant ? Bah écoutez, on se posera la question dans un instant. On parlera également des aides de l'État sur les carburants. 710 millions d'euros d'aide, est-ce suffisant ? Et puis on reparlera également du film L'Abandon, la réaction d'Edouard Geffray, le ministre de l'Éducation. Faut-il montrer ou pas le film dans les collèges et les lycées ? Il a répondu à cette question. À tout de suite.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.